Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kénéen. Et ce soir dans Ping Pong, beaucoup d'électricité avec trois rockers, des S en forme d'éclair, des vins étincelants, des météores, des métaux lourds et un grand incendie. Et puis, en deuxième partie, des coups de foudre, des rafales d'armes automatiques et les vertus stratégiques de l'anguille électrique Bowayo.
Ping Pong, la culture sans limite.
En direct du salon Livre Paris 2016.
Ping Pong.
Ce soir, la table de ping-pong fait salon en direct de Livre Paris 2016. On commencera dans une première partie par remuer les chaises et décloisonner les genres. Avec un vigneron rock'n'roll, un auteur de BD aussi puissant à lire qu'à écouter et un spécialiste encyclopédique du heavy metal. Et puis une deuxième partie direction le Congo, les deux Congos, mondialisation romancée depuis Kinshasa et chronique dessinée de Brazzaville, ville invitée de Livre Paris cette année pour la 36e édition.
Mathilde Serrel, Martin Kénéen, Ping Pong.
On dit de lui que c'est un rocker de la viniculture, avec son profil de citadin autodidacte et son approche affranchie des codes du mondo vino. Sa vie, elle ressemble d'ailleurs à une éternelle tournée. Conseillant une centaine de domaines viticoles dans le monde, il exporte sa contre-culture bordelaise au Liban, comme en Ukraine, ou en Californie, chez Francis Ford Coppola. Lui, qui dit avoir vu la Vierge en découvrant la fermentation, sait répondre à des questions aussi essentielles que « Quel vin écouter sur du Louride ?» Il affiche déjà 30 ans de métier, il publie son album biographique « Wine on Tour » aux éditions La Fabrique de l'Épure. Ce soir, il se lancera même dans un live œnologique pour Livre Paris. Stéphane Renoncourt, bonsoir.
Bonsoir.
Lui a plusieurs visages qui tous se reflètent justement dans un lac environné de flammes. Il est auteur de bandes dessinées, mais aussi scénographe, graphiste, concepteur de jeux vidéo et musicien de rock. Si on lui dessinait une tête de cerf, on dirait que chacune des ramifications de ses bois, eh bien, correspond à une activité artistique, que toutes partent bien de son crâne pyromane et que toutes, chose étrange, se rejoignent in fine. Tous les chemins dangereux qu'il imagine mènent en effet à Melville, un patelin qui fait songer à celui d'History of Violence de David Cronenberg, un bled environné de forêts hantées où vivent isolés ces héros qui ont enterré leur vilain secret jusqu'à ce que des femmes viennent les réveiller. La série Melville se décline ainsi en bande dessinée avec ce deuxième tome, l'histoire de Saul Miller, toujours chez Le Lombard comme le premier, l'histoire de Samuel Beauclair, mais aussi sur le site internet melville.com et en concert ce soir à 20h sur la scène BD. Bonsoir Romain Renard.
Ah, bonsoir.
Quant à lui, c'est un défenseur indéfectible des mauvais genres. Passeur de rock, de BD, de SF, de polar, de punk et surtout de heavy metal sur la radio publique belge pendant 40 ans. Il voue volontiers un culte à la trinité anglaise, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, mais connaît toutes ses ramifications et descendances jusqu'à aujourd'hui. Car oui, la culture de la mort, comme disait l'ancienne ministre Christine Boutin, se porte très bien. Et en plus, il en est le plus grand spécialiste francophone. Pogo, slam, stage diving, les pratiques, trash, black, doom, comme les sous-genres du heavy metal, deviennent avec lui de véritables objets d'étude, à l'image de l'ouvrage qu'il signe pour la petite BD Tech des Savoirs, excellente collection encyclopédique de bandes dessinées didactiques aux éditions Le Lombard. Jacques de Pierrepont dit Pompon. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Stéphane de Renoncourt, dans cette bande de rockers, vous êtes donc le viticulteur, vous publiez Wine on Tour avec Christophe Goussard et Claire Brosse, et c'est construit comme une playlist autour de Tom Waits, des Doors, des Kings, des Clash. Vous allez faire donc une performance rock-onologique tout à l'heure en direct de Livre Paris. Qu'est-ce qu'il y a de profondément rock dans le vin, pour vous, qui soulignez d'ailleurs sa valeur civilisationnelle et qui citez volontiers Rabelais, Giono, mais aussi Lester Banks et Patti Smith?
Au départ, le choix du rock, c'est pour rythmer un livre essentiellement sur le vin. Et en fait, il y a beaucoup de points communs entre notre métier et puis la scène rock. D'abord le groupe, parce qu'on conseille une centaine de domaines sur 17 pays. Donc il y a une notion de tournée un peu. On est toujours, moi je peux faire 5 pays par semaine parfois. Donc c'est une vie un peu, ouais, un peu rock'n'roll. Et puis moi je suis un autodidacte, donc c'est une boîte un peu en dehors des codes, donc qui a eu du mal à démarrer parce qu'on n'a pas été très très bien accepté dans le sérail au départ, et on a bousculé tout ça et on a fait notre route. Et puis c'est vrai qu'aussi il y a beaucoup de bouquins sur le vin, et moi je les trouve souvent très ennuyeux, donc j'avais envie de donner un angle un peu plus actuel, un peu différent, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent aimer le vin et le rock, et souvent le vin on reste un peu dans le classicisme, sur l'image un peu pantouflarde, cognac, cigare. Et donc de mêler ça avec le rock, ça marche très très bien. Ça marche très, très, voilà.
Vous conseillez quoi sur un Lou Reed, juste?
Sur un Lou Reed? Bah du Lou Reed. Ah, comme vin?
Bah oui.
Un Pomerol.
Romain Renard, on va parler de rock avec vous dans un instant, mais partons pour commencer dans le décor de Melville, donc votre série en bande dessinée au Lombard, avec ce deuxième tome, l'histoire de Saul Miller. À l'instant, on évoquait la dimension civilisationnelle du vin. Avec vous, on est plutôt du côté sauvage. Hein, on pense avec Melville à la fois à Walden ou La vie dans les bois du fameux Henry David Thoreau, le poète naturaliste américain, mais il y a aussi du thriller, au suspense à la fois diffus et oppressant dans cette série. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la tension qui, pour vous, est dans cette série en bande dessinée, habite les grands espaces, les forêts profondes qui sont à la fois édéniques et en même temps horrifiques?
Paradoxalement, c'est par rapport à ses habitants, par rapport aux habitants de Melville. Donc c'est vraiment sur un tout petit microcosme, une petite ville perdue en plein milieu des forêts, comme vous le disiez. Et c'est ce que ces gens vivent et comment la nature va interférer dans leurs humeurs et dans leur passé, ce que la nature va révéler chez eux, qui m'intéresse en tout cas. Moi, je parle d'humeur surtout.
Et donc, c'est pas la nature qui est mauvaise comme chez Sade, c'est foncièrement les humains.
Non, la nature est la nature. Elle est ni mauvaise ni bonne. Elle est juste naturelle. C'est en tout cas, c'est l'esprit humain peut-être qui est peut-être à juger.
Stéphane de Renoncourt dit que la nature est une hyène, un serpent, un renard.
Il y a tout ça dans Melville.
Ouais, moi, c'est en opposition avec les écolos qui pensent que la nature est bien faite et qu'elle est gentille, mais c'est complètement faux. C'est travailler pour exprimer un produit de la nature, c'est un combat permanent. Et ça demande une observation, une observation, et surtout, il faut être à l'affût de tous ces vices. Donc, la nature n'est pas gentille.
Alors, Jacques de Pierrepont dit Pompon. Vous préférez que je vous appelle Pompon ou Jacques de Pierrepont?
Oui. C'était le nom. C'est le nom radio, quoi. Voilà.
Alors, Pompon, vous connaissez bien Romain Renard, qui repousse à sa manière les limites de la BD, parce que c'est un peu deux tomes mutants, hein, Melville, qui a une application aussi, avec toute une bande-son qui accompagne la BD et qui vous fait comme ça entrer en immersion. Il y a des titres d'ailleurs assez rock, enfin un titre de clôture que j'ai trouvé assez rock. Et alors vous employez la BD pour transmettre ce savoir encyclopédique, universitaire, qui est le vôtre sur le heavy metal. Comment ça vous a aidé, justement?
Ben, c'est frustrant parce que c'est une BD, évidemment. Donc, c'est pas une encyclopédie de 300, 400 pages. Donc, il faut vraiment aller à l'essentiel. Et bon, ben, l'essentiel, il faut déjà le définir. Ce qui est pas simple parce que le heavy metal, il y a tellement de clichés, simplistes qui tournent autour. Ben, il faut déjà perdre du temps à débusquer les clichés et à les foutre à la porte. Pour passer aux choses sérieuses, voilà. Mais c'est inévitable. Bon, un des clichés, c'est musique de bourrin pour les mélomanes. Un autre cliché plus philosophique, c'est oulala, ça sent le soufre, voire le démon. Alors qu'en fait, il y a une dimension métaphysique importante chez beaucoup de gens dans le métal. Et comme disait le regretté Lemmy, ni Dieu, ni maître, ni diable. Si on abandonne Dieu, c'est pas pour accepter la suggestion de son inverse, par exemple.
Lemmy, c'est le chanteur de Motorhead. Hein.
Voilà, Lemmy de Motorhead, oui. Voilà.
Et il y a aussi cette idée, ce dernier cliché, qui est que c'est une musique familiale, le heavy metal.
Ben, à l'inverse de la pop music, où chacun est concurrent à tout prix des autres, et ça donne des résultats assez amusants, du style Oasis dit les Beatles, c'est qui ça? Par exemple, dans le métal, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a un respect de la filiation et donc de la transmission. Les jeunes musiciens sont fiers de pouvoir jouer ou rencontrer ou côtoyer leurs grands-pères. Voilà. Donc, il y a clairement une affirmation intergénérationnelle qu'on voit d'ailleurs très bien dans les publics du heavy metal. Il y a quelques années, au Grass Pop en Flandre, dans le nord de la Belgique, il y avait Alice Cooper Et Slipknot, le père était là pour Alice Cooper, il avait son gamin sur les épaules qui regardait son père un peu consterné face à Alice Cooper redevenir un sale gamin. Et puis ben, après, Slipknot débarque et le gamin qui avait 8-9 ans hurlait les chansons de Slipknot toujours sur les épaules du paternel. Voilà, ça c'est le genre de truc qu'on voit dans un festival de métal.
Romain Renard, le rock, le heavy metal singulièrement est affaire à la fois de riff, mais aussi peut se faire symphonique, comme nous le dit Pompon à l'instant. Il y a quelque chose de symphonique dans votre trait. Parlez-nous de ce trait qui est le vôtre dans cette série en bande dessinée Melville, où vous avez un dessin qui est volontiers pictural. Il y a quelque chose de la peinture dans votre exploration à la fois des forêts, à la fois des grands incendies qui ravagent Melville et ses environs, à la fois aussi dans votre exploration du cosmos dans ce deuxième tome. Pourquoi avoir choisi une telle image, une telle imagerie ?
Pour raconter au mieux les humeurs et faire en sorte que ce soit global, que je parle de l'humain ou que je parle de la nature, les deux existent, coexistent, et donc j'avais besoin de peut-être d'être un peu picturaliste, mais en tout cas d'avoir un angle assez large, en tout cas sur ce que je voulais raconter. On parle de symphonie, mais il y a une symphonie musicale de la nature. Il y a le hasard musical fait partie aussi de la nature et fait partie de la fiction. En même temps, c'est ce que j'essaie d'explorer en tout cas.
Jacques de Pierrepont, vous voulez réagir.
Il y a aussi la noirceur du polar à l'américaine. Moi, quand je lis Melville, ça me rappelle les univers de Jim Thompson, 1275 âmes ou 1280 âmes en fonction de la population. En traduction française initiale à la série noire.
On n'est pas loin de Missoula.
Vous en avez perdu 5, voilà. Ça renvoie aussi à cette noirceur. Évidemment, ce qui est nouveau, c'est que Jim Thompson, lui, ne se préoccupait pas de la nature. On avait l'impression qu'elle n'existait pas trop dans les bouquins. Ici, c'est l'inverse. Mais je pense quand même qu'il y a un fond commun de noirceur avec ce genre de romancier-là. Enfin, je me trompe peut-être, mais enfin, c'est un compliment que je lui fais, en tout cas.
Mais c'est parce vous que l'acceptez, Romain
moi, je prends, évidemment, Jim Thompson. Mais quand on parle de racines, fatalement, on va creuser. Et quand on creuse, on a de la terre sous les ongles.
Et du sang et des os.
Et voilà, et de la sueur et plein de choses. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est d'aller trifouiller dans le terreau, en tout cas.
Every job they offer used to kick you off the dock. Career opportunity, the one and never not.
Vous écoutez Les Clash sur France Culture. J'espère que vous headbanguez bien, comme on dit dans le heavy metal. Le titre Career Opportunities, c'est un des titres qui jalonne votre album biographique Stéphane de Renoncourt, qui correspond au début de votre carrière viticole. Oui, c'est vrai, on est au milieu des années 80 et on peut pas faire plus punk, parce que vous êtes dans la région du Bordelais, il y a une culture du chai, on retravaille le vin, et vous débarquez au milieu des années 80 dans la biodynamie, aux côtés d'un certain Paul Barre. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, vous vous embarquez avec le Joe Strummer du Bordeaux?
Oui, mais sans m'en rendre compte, parce qu'en fait j'arrive là et je trouve un premier job chez un type qui est complètement allumé, complètement habité, et qui pratique la biodynamie à Bordeaux à une époque où c'était vraiment pas très très développé, et donc c'est certainement aussi un point essentiel dans ma carrière. C'est que moi, les 10 premières années, je connaissais que ça, en fait j'ai appris avec ça, et donc quand je suis arrivé dans d'autres projets, je me suis rendu compte que j'étais un marginal, et ça m'allait très bien en fait.
J'avais une crête dans les rangs de vignes et au pied des...
J'avais les cheveux longs, moi. J'étais plutôt baba cool.
Mais vous vous sentiez embarqué vraiment dans une contre-culture du vin à ce moment-là?
Non, mais c'était naturel parce qu'en fait, moi, je suis un déraciné. Moi, je suis originaire du nord de la France et j'ai décidé de changer de vie à 18 ans. Et je suis arrivé dans le Bordelais, donc j'avais rien, ni diplôme, ni... Donc il a fallu que je bouffe, quoi. Et au départ, j'ai fait des petits boulots dans la vigne. Je détestais ça. Et en fait, ma béquille, c'était la musique, quoi. J'avais à l'époque un Walkman sur la tête et toute la journée, en faisant un travail souvent pénible, parce que le travail des vignes est très pénible. Et ben mon support, ma béquille, c'était la musique. Et voilà. Et j'étais j'imaginais un peu plus bronzé, un peu noir, dans une sorte d'esclave des temps modernes. Et voilà.
Romain Renard, tout est affaire de rencontres, de personnages. On entend en tout cas dans la carrière, la tournée de Stéphane de Renoncourt, mais chez vous aussi. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos héros, Samuel Beauclerc, Saul Miller, dans ce tome 2, qui sont à la fois des personnages brillants, intelligents, mais qui ont aussi des méchants secrets enterrés au fond de leur jardin ou sous les planches de leur baraque en rondin. J'ai pensé, en vous lisant, à l'essai d'un anthropologue français, Denis Duclos. Le bouquin s'appelle « Le complexe du loup-garou, la fascination de la violence dans la culture américaine », et il dit que l'intelligence et la vérité fascinent les Américains. Et il ajoute, c'est pas un hasard s'ils ont inventé le polygraphe, le détecteur de mensonges. Il y a des secrets, des mensonges qui hantent vos personnages. Est-ce que c'est votre côté américain qui ressurgit?
Alors que ce soit plutôt que américain, je dirais plutôt Nord-Amérique. Donc ça comprend le Canada, voire l'Alaska ou des choses comme ça. Et je dirais plutôt que c'est un rapport de rédemption plutôt que de violence. Parce que la violence, oui, chacun là et l'exprime, soit reste timide par rapport à sa violence, soit l'exprime de manière beaucoup plus concrète. Ce qui peut-être se rattacher à une forme de littérature nord-américaine, plutôt, et ça c'est, je pense, assez culturel depuis trois siècles, en tout cas, c'est cette forme de rédemption qui est assez proche, en tout cas, de la culture christique qui a formé ce pays. Et c'est ça, ce sont des personnages qui ont, sans le savoir, une mission à accomplir. C'est pas encore éclairé, ni éclairant chez eux, mais un phénomène dû au hasard, comme pour mon Saul Miller dans le deuxième Melville, raconte que deux météorites peuvent se rencontrer alors qu'elles n'étaient pas censées se rencontrer. Et donc c'est la théorie du chaos qui rentre dans la fiction. Le hasard fait en sorte que la rédemption va arriver, presque forcée en tout cas. Et c'est à ce moment-là finalement qu'on déterre les racines, et avec cette charge de terre, de glaise, de vieille argile qui peut arriver.
Alors il y a une forme de rédemption aussi en ce moment pour le heavy metal, en tout cas ça devient universitaire. Depuis 2015, c'est étudié dans les universités en Scandinavie, en Angleterre. C'est alors qu'évidemment, tout ce qui est les études sur le genre, Beyoncé peut être étudié à l'université américaine depuis très longtemps. Donc cette contre-culture-là, justement, du heavy metal, est-ce qu'elle est en train de vivre une heure, en tout cas, d'acceptation, Jacques de Pierrepont?
Oui, il y a des chercheurs français qui s'y mettent, hein, comme Guibert, des sociologues et des anthropologues. Voilà, et puis ben, on en arrive même à parler d'une forme de religiosité athée qui s'exprimerait à travers le métal, le côté grand messe, le côté théâtral, le côté communauté culturelle avec ses rites. Bon, c'est peut-être aller un peu loin, mais qu'il y ait de façon tout à fait inconsciente chez la plupart des fans, hein, ça c'est bon, une quête de spiritualité entre guillemets ou de rite d'initiation quand on est ado, puisqu'on n'a plus de rite d'initiation dans nos sociétés, ben on s'en crée d'autres à coup de transgressions musicales juvéniles, voilà. Et effectivement, mais ça c'est valable pour l'ensemble du rock, mais encore plus pour le heavy metal qui est, on va dire, bon, le rock, après 60 ans, c'est devenu du rosier bien taillé. Et le heavy metal, ça reste l'aubépine qui pousse sauvage, voilà.
Stéphane de Renoncourt, il y a à la fois l'ange et la bête dans le heavy metal, et c'est heureux, nous dit Pimpon, Pampon, Pampan.
Pompon.
Pompon. Jacques de Pierrepont dit Pompon.
Mais on dit souvent que la culture métal est plus bière ou bourbon que vin, à mon très grand regret, d'ailleurs.
Romain Renard, lui, il opère une fusion dans son travail pictural, nous disait-il, entre cette violence et cet angélisme de la nature américaine et des êtres singuliers qui la peuplent. Vous parlez des forces contraires que vous retrouvez à la fois dans le rock et à la fois dans le vin. Avec votre vocabulaire, vous pourriez nous décrire ces forces contraires, peut-être du vin en particulier ?
Des forces contraires, parce que comme je vous disais, que au départ, l'histoire de faire un vin, c'est d'amener un beau raisin. Et amener un beau raisin, c'est vraiment un combat, c'est vraiment un stress. C'est le souci du détail, c'est l'étude de la saison. C'est quelque chose d'à la fois très simple, mais d'à la fois très, très contraignant. Et le vin, comme la musique, on a affaire à quelque chose qui est lié au temps. Le vin, les grands vins traversent le temps. Et les grands musiciens traversent le temps aussi. Et en fait, il y a aussi cette opposition entre l'adoration d'un lieu, parce que finalement, le faire du vin à un niveau de grand vin, c'est traduire l'expression d'un lieu. L'identité d'un vin, c'est le lieu d'où il vient. Ce côté un peu sédentaire est complètement en opposition avec une culture rock qui est plutôt instable et voilà. Et moi, j'ai trouvé ma stabilité. Je suis un mec complètement instable et je pense avoir trouvé ma stabilité dans ce métier parce que j'ai pu à la fois combiner une vie un peu instable avec beaucoup de voyages et en même temps un métier qui demande une certaine sédentarité, au moins dans la philosophie.
Alors ce lieu à la fois sacré et profane, eh bien il existe, c'est Livre Paris 2016 où on peut vous rencontrer en ce moment. Merci à tous les trois. Stéphane de Renoncourt, donc vous signez Wine on Tour à la Fabrique de l'Épure avec une préface d'Iggy Pop. Ouais. Quant à vous Pompon, c'est Heavy Metal chez Le Lombard, le même éditeur que celui de Romain Renard, Melville, pour le tome 2, l'histoire de Saul Miller. Et puis ce soir il y a un concert dégustation donc avec accord entre vin et rock au Square Culinaire, et puis en rivalité on entendra des Larsen naviguer, puisqu'au même moment à 20h, il y a un concert rock de Romain Renard sur la scène BD.
C'est le salon de l'écriture et du livre en même temps. En fait.
One, two, three.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, bien l'émission qui est à la fois le salon du livre, de l'agriculture et le Hellfest.
Livre Paris 2016, deuxième partie à suivre avec du roman de Kinshasa, de la BD de Brazzaville, Jean Beaufan et la dessinatrice Jussie Hansana.
Mais tout de suite, il est l'heure de retrouver Zoé Sfez pour son journal de la culture. Bonsoir Zoé.
Bonsoir Martin, bonsoir Mathilde.
Bonsoir Livre Paris 2016.
En direct et en public, Zoé, vous consacrez votre dossier ce soir à la fameuse question de l'impression à la demande, print on demand, comme on dit dans le jargon, après l'ouverture de la nouvelle librairie des presses universitaires de France, équipée justement d'Express Book Machine. La question se pose plus que jamais, quel rôle joueront demain ces systèmes dans le marché du livre ?
Oui, alors après, le livre numérique, c'est certainement le bouleversement le plus important dans matière de livres depuis des années. On en a pas mal parlé sur l'antenne. Les presses universitaires de France qui avaient fermé leur librairie il y a 17 ans ont rouvert en plein quartier latin. Au centre de la librairie, il y a une Expresso Book Machine. C'est une machine qui, devant vous, devant vos yeux ébahis, imprime le livre que vous avez préalablement choisi sur une tablette en 5 minutes, donc le temps de boire un café. C'est une première en France, mais l'EBM, comme on la surnomme, a été lancée en 2007. Elle est déjà présente en France dans 60 lieux, pas forcément des librairies, et déjà très implantée aux États-Unis, là, dans des librairies. Pour Frédéric Mériot, le directeur général des PUF, investir dans une telle machine était pour lui la meilleure solution.
En tant qu'éditeur, il y a un avantage pratique qui est de pouvoir être présent à nouveau dans ce quartier si particulier qui est le quartier latin, qui est notre berceau. Et nous n'aurions jamais eu les moyens de revenir dans le quartier latin avec la même librairie que nous avions autrefois, qui faisait 600 mètres carrés sur deux niveaux et qui employait une grande quantité de libraires pour servir les clients sur une telle surface, avec beaucoup, beaucoup de livres stockés et une rotation très faible. C'était juste impossible. La seule façon pour nous de revenir dans ce quartier était d'innover. Et cette innovation devait venir du numérique. Simplement, même si nous savons parfaitement faire du livre numérique, nous savons bien que le livre numérique ne recueille en réalité pas les suffrages de la majorité des lecteurs. En France, le marché du livre numérique, c'est 2% du marché seulement. Ce n'est pas ça l'avenir du livre. L'avenir du livre, c'est le livre. Et l'avenir du libraire, c'est le libraire. Sauf que, derrière ces mots, la façon de faire le métier peut être différente et peut permettre des choses qui n'étaient pas permises avant.
Si la machine était la solution parfaite pour les puffs, Zoé, eh bien, ces puffs qui éditent des ouvrages spécialisés, peut-elle l'être pour les éditeurs et surtout pour les libraires?
Oui, alors c'est la question. Est-ce qu'elles peuvent vraiment s'imposer et être au centre de la chaîne du livre dans 10, dans 20 ans? Cela semble assez incontournable aujourd'hui. Est-ce qu'on peut l'espérer? Est-ce qu'on doit l'espérer? Ça, c'en est une autre. Alors, lors de la sortie de l'Expresso Book Machine en 2007, on a parlé d'une machine qui allait sauver tout simplement le livre, qui était la plus grande révolution depuis Gutenberg, puisqu'il n'y avait plus de livres à pilonner, qu'il n'y avait plus de problème de stock, et qu'il y avait donc une économie à la demande qui allait satisfaire tout le monde. Mais les choses sont en réalité un peu plus compliquées que ça, certainement en tout cas plus nuancées, comme nous l'explique Vincent Monadet, c'est le directeur du Centre National du Livre.
Alors je pense que pour les éditeurs, effectivement, l'adaptation sur un certain nombre de titres de fond pour ne pas réimprimer à l'impression à la demande deviendra quelque chose d'assez généralisé. Pour les libraires, honnêtement, je ne sais pas combien a coûté le dispositif des puffs, mais ça dépendra des coûts de ces machines et de leur qualité. Et de toute façon, ça ne pourrait être qu'un apport en plus pour eux, parce que la librairie, c'est essentiellement de la flânerie. C'est-à-dire, on vient pour acheter ou commander un livre et on repart avec quatre. Donc, il faudra toujours avoir du fond, parce que je ne crois absolument pas aux librairies à mur nu, où les gens viendraient et flâneraient sur la machine pour imprimer quatre livres alors qu'ils veulent en commander un. Il y aura des libraires qui auront la capacité de proposer une excellence de qualité de service. Si elle passe par l'impression à la demande, il y aura des systèmes d'impression à la demande peut-être mutualisés, peut-être plus chez les éditeurs que chez les libraires. Mais de toute façon, ce qui différenciera les libraires d'Internet, c'est l'exceptionnelle qualité de leur service.
Et du côté des libraires aussi, Zoé, on refuse tout manichéisme.
Oui, alors Mathieu de Montchalin dirige la librairie de l'Armitière à Rouen. Il est à la tête du syndicat des libraires. Lui non plus, il ne croit pas à ces librairies qui deviendraient, comme il dit, de simples magasins de photocopieuses. On n'aurait que ces machines et on commanderait que les livres qu'on veut. Il reconnaît néanmoins que quand même pouvoir répondre aux demandes des clients immédiatement serait un vrai plus. Mais il indique qu'au prix actuel des machines, de toute façon, il faudrait imprimer 50 livres que vous n'avez pas dans votre magasin par jour pour qu'une telle machine soit rentable. On n'en est pas encore là. Quant à l'avenir, lui aussi est assez nuancé.
Je pense que peut-être que dans quelques années, quand les dispositifs seront plus aboutis, quand ça coûtera moins cher, on aura peut-être dans les librairies des moyens d'accéder à des titres qui sont indisponibles et à des titres qu'on ne peut pas se procurer. Ça passera quand même par l'accord des éditeurs. Et c'est aux éditeurs qu'il faut demander si, oui ou non, ils sont d'accord pour que leurs livres soient directement imprimés, alors dans une librairie ou ailleurs que dans leurs entrepôts. Et je crois que c'est la limite du système aujourd'hui. C'est-à-dire que cette machine, elle est très impressionnante. Je salue les puffs qui ont réussi leur effet d'annonce. Mais en même temps, si demain vous allez dans cette librairie et que vous demandez la liste des livres que vous avez envie de lire à la suite des rencontres que vous avez pu voir au Salon du Livre, vous serez extrêmement déçu. Vous trouverez pas de polar, pas de roman récent, pas de best-seller. Bref, pas ce qui fait le très gros des ventes de livres en France.
Voilà, alors parce qu'en fait, c'est vraiment du côté des éditeurs que les choses sont plus complexes. Ceux qui sont déjà séduits, comme les puffs, ne sont en fait pas légion, parce que les éditeurs, ils ont déjà leur propre machine et qu'eux-mêmes, ils investissent de plus en plus dans des machines d'impression à la demande. Par ailleurs, le géant Amazon demande à vouloir mettre en place ce type de machine, ce qui lui éviterait justement d'acheter plus de livres aux éditeurs. Les éditeurs, pour le moment, évidemment, le lui refusent. Ils ne pourraient donc pas accorder aux petits libraires d'un côté ce qu'ils refusent au grand géant Amazon de l'autre. Mais pour combien de temps encore? On peut encore se poser la question.
Et l'on passe au bref, Zoé Livresque, évidemment.
Oui, on ouvre avec les lauréats du prix du livre audio France Culture qui a été remis sur ce plateau ici même il y a quelques heures. Pour la première fois cette année, les votants étaient des auditeurs et des internautes, vous. Les lauréats sont dans la catégorie fiction Temps glaciaire de Fred Vargas, lu par Thierry Janssen, dans la catégorie document Alors voilà, de Baptiste Beaulieu, lu par Emmanuel de Coninck, paru tous les deux noms chez Audiolib. Et dans la catégorie jeunesse, c'était Oli de Gilles Bizuerne, lu par l'auteur lui-même, c'était paru chez Vidir.
Les équipes de Lagardère Active contre le plan de départ.
Les salariés de l'ensemble des titres de presse de Lagardère Active, donc le JDD, Elle, Paris Match, Télé 7 jours, ont voté aujourd'hui une grève immédiate à durée indéterminée. Ils demandent le retrait du plan de départ volontaire de 220 postes annoncé par la direction la semaine dernière qui prévoit des coupes de 20 à 30% dans les effectifs des rédactions.
L'Égypte annonce avoir découvert deux chambres cachées dans la tombe de Toutankhamon.
Le ministre des Antiquités égyptiennes annonce aujourd'hui, avec moult fanfare, que le projet Scan de pyramides dont je vous avais parlé, lancé il y a quelques mois pour sonder avec des techniques de pointe à la fois les pyramides mais aussi la tombe du jeune pharaon Toutankhamon, s'est révélée donc fructueuse. L'équipe japonaise en charge des ultrasons, de la technique ultrasons, a conclu aujourd'hui qu'il y a bien deux pièces cachées dans cette tombe. Alors est-ce que c'est bien celle de Nefertiti, comme le supposent plusieurs égyptologues? Le ministre penche plutôt pour une autre reine ou une épouse ou une fille d'Akhenaton, suite donc au prochain épisode.
Suspense archéologique.
Merci Zoé, on vous retrouve pour le disque du jour à 19h50, mais tout de suite, place au deuxième plateau de notre émission ping-pong spéciale, en direct et en public du salon Livre Paris 2016, un plateau spécial Congo qui débute au son du nouveau Konono numéro 1.
Mathilde Serrel, Martin Kenéen.
En direct du salon Livre Paris 2016.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
Elle a une révélation à 6 ans lorsque sa mère lui a offert une bande dessinée sur le quotidien des villages. En troisième, elle produisait sa première toile avant d'enrichir encore son sac à art, comme elle dit. Plasticienne, vidéaste, illustratrice, cette ancienne de l'école des beaux-arts de Brazzaville enseigne aujourd'hui aussi au collège de Pointe-Noire. Elle compte bien 10 ans après la guerre civile redonner sa chance artistique au Congo. À l'image de ce recueil de BD Chronique de Brazzaville auquel elle collabore, c'est publié à l'Armaton. Jussie Ansana, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Quant à lui, après Mathématiques congolaises, il signe un roman monde, vorace et girovague, au don d'ubiquité, un roman à la fois mondialiste, comme son héros, Isukanga, le pygmée échappé de la forêt équatoriale pour conquérir la planète, comme dans un wargame massivement multijoueur, un roman monde, à l'image de Kinshasa, la moderne Babylone, peuplée de démons mercenaires, un roman monde qui se déploie depuis la cour des miracles, que le monde des Chégués, les enfants des rues, qui est le monde des Chégués, ces enfants des rues du grand marché de Kinshasa. Le roman s'intitule Congo Incorporated, le testament de Bismarck. Il est publié chez Actes Sud. Il se présente à nous, le poitrail plus bardé de médailles qu'un général de la MONUC, admiré plutôt, grand prix du roman métis, prix des 5 continents ou encore prix des bibliothèques de la ville de Bruxelles. Bonsoir, Incoli Jean Bofan.
Bonsoir.
Jean Bofan, dans ce nouveau roman, Congo Incorporated, le testament de Bismarck, il me semble que vous n'écrivez pas un roman congolais. Vous écrivez un roman foisonnant comme un tableau de Bruegel. Je sais qu'ils ont pu vous marquer dans votre enfance.
C'est clair.
On se croirait même dans un tableau de Jérôme Bosch. Ce qui m'est venu, c'est que vous écriviez un roman cannibale qui semble faire sien le credo du mouvement littéraire qu'on appelle le tropicalisme. À savoir, si tu grandis en marge du centre du monde, eh bien, cesse de te préoccuper de ce qui est à toi et prends tout. Est-ce que cette ambition vous sied?
Oui, parce que je me suis placé au centre du monde, c'est pour ça que c'est un livre, voilà, c'est tellement foisonnant, on est partout. On est à Kinshasa, mais le Kinshasa n'est que le centre de quelque chose. Parce qu'on voit aussi bien en Chine qu'à New York, et tout ce qui se passe en Chine ou ce qui se passe à New York ou à Bruxelles ou à Paris est conditionné par ce qui se passe au Congo.
C'est le ventre du Congo qui est le centre du monde.
C'est la démonstration que j'ai voulu faire à travers Congo Incorporated.
Alors, le fil du récit de votre roman Jean Bofan et aussi de l'histoire de ce Congo Kinshasa, c'est finalement le sort réservé aux femmes. Et c'est aussi le fil rouge du récit des chroniques de Brazzaville, de Jussie Ansana, entre autres, puisque vous êtes plusieurs à signer ces chroniques de Brazzaville. En quoi elles sont au cœur de l'histoire que vous proposez dans les chroniques de Brazzaville et de toutes celles qui sont présentées?
Eh bien, dans Chroniques de Brazzaville, contrairement à mes deux collègues qui ont parlé de la guerre, j'ai plutôt présenté au public une histoire que j'ai puisée dans notre train-train quotidien. Il s'agit donc d'un jeune homme amoureux d'une jeune femme et qui a eu des difficultés pour s'approcher de cette dernière. Et finalement, il trouve l'astuce. Celui de dire à sa bien-aimée qu'il part en France. Finalement, il va se retrouver dans un village où il s'empiffre de canne à sucre. Et il trouve une idée de revenir en ville pour emprunter des habits auprès de ses amis.
Ses amis sapeurs.
Ses amis sapeurs. Et donc, d'emprunt en emprunt, il va devenir sapeur jusqu'à aller vers la fille qui se dit, mais tiens, donc c'était vrai, Barrel était allé en Europe, en France, et à ce moment-là, elle tombe dans son jeu jusqu'à ce qu'elle va se retrouver enceinte. Et c'est à ce moment-là que Barrel va retourner au village, laissant Cathy avec un enfant à sa charge. Et en fait, l'histoire s'arrête là. Mais la maison d'édition m'avait demandé de rajouter une planche. Et du coup, j'ai rajouté la planche, mais je ne voulais pas être moralisatrice quand même. Donc, dans la dernière planche, je présente Barrel qui revient d'un voyage, qui fait un accident. Et à l'hôpital, le médecin lui annonce que, par rapport au choc qu'il avait reçu, qu'il ne pouvait plus faire d'enfant. Et donc, à ce moment-là, j'ai laissé les lecteurs de... En fait, c'est un suspense.
Incoli Jean Beaufan, on ne peut pas dire non plus que votre roman Congo Incorporated, voilà. Le testament de Bismarck, soit vraiment moral. Est-il amoral, immoral? Je ne sais pas. Mais vous n'avez pas choisi, comme Justine Sana, de vous centrer sur une héroïne. Il y a plusieurs héroïnes. Il y a aussi des héros, des personnages masculins, grands ou petits, par la taille ou par l'ambition, par l'âge également. Flaubert a dit, il aurait dit, c'est apocryphe je crois, Madame Bovary, c'est moi. Mais en quoi est-ce que vous êtes non seulement Isukanga, mais aussi Chacha la jactance, Zhangxia le contremaître chinois, ou encore Kiro le seigneur de la guerre qui a du sang sur son costard cravate.
Oui, mais il faut incarner les personnages. Alors les écrivains, faut les incarner. Donc voilà, j'ai pu incarner Chacha la jactance, une jeune prostituée de 15 ans, une enfant putain. Il y a Adeito qui est une ancienne esclave sexuelle que le criminel de guerre a ramené à Kinshasa. Et puis il y a les enfants des rues. Ces personnages, disons, pour être au plus près, il faut les incarner, ça c'est clair, ça c'est sûr.
Et vous êtes, comme dit Baudelaire, à la fois et la victime et le bourreau.
Et la victime et le bourreau, donc voilà. Et...
Il y a du Nabokov aussi, vous prenez plusieurs bouts de vous-même pour déployer des identités de personnages.
Mais il fallait, ça dit, il y a une tragédie qui se déroule au Congo quand même. Je voulais parler de mondialisation, mais je voulais surtout parler du grand drame, le premier grand drame de la mondialisation. Qui est cette guerre du Congo qui a fait 6 millions de morts, 500 000, le fil rouge, c'est justement la violence faite aux femmes. C'est 500 000 femmes qui ont été violées, mutilées, donc voilà, ça dit que je devais toucher à mon sujet de très près. Il s'agit d'un drame dont on parle pas, on en parle un peu dans les journaux, de temps en temps, quelques entrefilets, mais il fallait que le lecteur puisse ressentir ce que ces femmes-là peuvent ressentir. Donc voilà, et il a fallu ça, il faut être au plus près de son sujet.
Warsike poda na mi Jangine kam jalia Kominuire dua jabi jeneba Du fin fond du Fouladou au Congo Brazza L'africaine école buissonnière des beaux-arts Et comme par hasard La chanson s'appelle Black Bazar Tu crois te lever le matin C'est le soleil qui se lève Laisse dans les vestiaires ton baratin, la vie c'est pas du rêve. Pour pas rater ton train de vie, fallait prendre le précédent. C'est une question de survie, que tu sois pour ou contre. Le temps c'est de l'argent comptant. L'homme inventa la montre, mais Dieu créa le temps. Justice blanche, misère noire, la bête noire c'est toi. C'est écrit noir sur blanc, lancera ton chemin de croix. Et ta peau restera noire malgré ton masque blanc. Jalia Djangintake, du fin fond du Fouladou au Congo Brazza. Et comme par hasard, la chanson s'appelle Black Bazar. Black Bazar.
Chanter, parler sur de la rumba congolaise, évidemment. C'est le projet Black Bazar, celui de l'écrivain de Brazza, Alain Mabankou, qui en a fait une pièce de théâtre, qu'il a adapté aussi donc en musique, ce Black Bazar. Et on nous dit l'Afrique et l'école buissonnière des Beaux-Arts. En quoi ça vous parle, ça, justement, Justine Sana, vous qui avez tant d'art dans votre sac, comme vous le dites?
Eh bien, je pense que c'est une bonne chose. Moi, personnellement, l'art est venu à moi et j'ai trouvé un refuge et je m'y suis accrochée parce que beaucoup de gens me posent la question de savoir est-ce que je vais arrêter la bande dessinée pour la peinture ou encore je vais arrêter la peinture et la bande dessinée pour l'art vidéo. Mais du moment où ces arts ne m'étouffent pas, je pense que pour moi c'est une très bonne chose de continuer parce que ce sont des arts qui se complètent. Dans la peinture, c'est un autre support que j'utilise et la bande dessinée et l'art vidéo, c'est le même langage parce que il y a des plans, il y a des séquences et pour moi c'est vraiment une continuité et voilà.
Jean Bofane, parmi les produits culturels qui circulent en République démocratique du Congo, il y a bien sûr les DVD qu'on vend à la sauvette, oui. Que vend Omari en particulier, l'ancien enfant soldat, les films d'horreur que vous avez pu consommer enfant, et ça apparaît dans votre personnage d'Omari, hein, l'exorciste. Il y a aussi, en revanche, les livres, vous le dites, ça coûte $60 à Kinshasa. Ouais. Heureusement, ça passe de main en main, mais il y a les bandes dessinées qui sont cet art populaire à grande diffusion. Vous avez connu cette expérience d'éditeur, c'était les éditions de l'Exocet, à la
L'Exocet.
Fois Poisson Volant et Missile Français. Vous pouvez nous raconter cette aventure?
Mais oui, les éditions de l'Exocet, c'était le Poisson Volant. L'Exocet, c'est le poisson qui est un temps dans l'air, temps en temps sous l'eau. Et puis alors et puis l'Exocet qui fait des dégâts pas mal à l'époque. Et donc voilà, moi je voulais une maison d'édition avec un nom emblématique de cette sorte-là pour montrer au pouvoir, parce que c'était des pamphlets politiques. C'était pour me moquer de Mobutu et de ses ministres. Alors donc, quand un ministre faisait une bêtise quelconque, on romançait et puis on mettait en scène. Et le lendemain, c'était vendu c'était vendu à la criée dans la ville. Voilà, c'est-à-dire au Congo, c'était ça. Ça dit il n'y a pas de règles. Ça dit que il y a la censure, une censure très féroce. Les journalistes, tous les hommes de parole sont pourchassés. Mais il fallait y aller, donc on le faisait.
Dénoncer les sans-rumeurs, comme vous dites, les rois du saccage, les maîtres du saccage.
Les maîtres du saccage.
Ça s'est mal passé, d'ailleurs, à partir du moment où vous avez commencé à parler des pilleurs.
Oui, évidemment. Mais ce qu'il y a, c'est que les vendeurs étaient pourchassés, les vendeurs étaient tabassés, arrêtés, mais les vendeurs ne m'ont jamais vendu. Ça a été quand même, ils m'ont jamais vendu, ils m'ont jamais dénoncé, et ça, c'est un peu cette conscience politique qui habite nos espaces. Parce qu'on s'imagine que un pays comme le Congo, il y a des dictatures, on s'imagine que les gens se taisent. Mais moi, avec les dictatures et les régimes un peu coercitifs comme ça, je me suis rendu compte qu'au contraire, ça développait le sens de la liberté. Et on parlait d'art tout à l'heure, et ce qui se passe aussi au niveau de l'art. C'est-à-dire que voilà, on a cassé tous les codes, on a tout essayé en Afrique. On a essayé la démocratie, on a essayé plein de concepts, on a essayé tous les concepts qu'on nous a amenés là-bas, et on s'est rendu compte que ça marche pas. Ça marche pas, ça fait 60 ans qu'on est sorti des indépendants et ça marche pas. Alors aujourd'hui, on casse les codes. Je sais pas si Brazza et Kinshasa, c'est pas exactement la même chose, c'est le même peuple. Mais l'histoire politique n'est pas la même.
Justine Sana, ça casse les codes du côté de Brazzaville. Vous qui venez de faire une exposition Soul Power, où là vous êtes sur le Black Power et l'esprit psychédélique aux États-Unis dans les années 70.
Et le projet Soul Power m'avait été proposé par Amatomi Productions. Pour moi, ça a été une découverte parce que j'écoutais la musique soul, mais je n'avais aucune connaissance par rapport à ce courant musical. Donc, ça a été pour moi une manière de m'exprimer, de m'informer et de donner ma vision à moi par rapport à ce courant musical qui a été un combat aussi pour les Afro-Américains qui ont utilisé l'art pour s'exprimer, et pour dénoncer le racisme et toutes les injustices sociales dont ils étaient victimes. Et je pense que c'est un combat qui est d'actualité. Mais par rapport à moi, à mon pays, je ne souhaiterais pas m'exprimer sur ce sujet.
On l'entend, Jean Bofan, hein. Justine Sana préfère les esquives avec le soul power pour parler de politique à sa façon. Vous, avec Congo Incorporated chez Actes Sud, vous signez vraiment un roman politique. Il y a du Mao, il y a du Héraclite, hein. La guerre est le père de toutes choses, entend-on, dans les rues de Kinshasa sur le grand marché. Il semble que même le Congo soit le père de toutes les guerres, et ça date pas d'hier, avec tous les minerais qui sont dedans. On monte même à Hiroshima et Nagasaki.
Oui, ça commence, parce que le sous-titre, c'est le testament de Bismarck. Et je fais mention à une phrase à la clôture de la conférence de Berlin où Bismarck déclare que le Congo est destiné à être l'exécutant principal de l'œuvre que nous comptons accomplir. Donc je voulais un peu voir cette œuvre, et elle s'étend en fait à partir de février 1885. On a l'ère industrielle qui commence. Alors imaginez seulement l'ère industrielle sans le caoutchouc. Et le caoutchouc, il y en avait qu'au Congo. Comme aujourd'hui, il y a que le coltan est massivement au Congo.
Et le coltan qui sert dans les
iPhones, dans la télécommunication, dans les armes sophistiquées, dans les LED qui commencent à se développer de plus en plus. Le coltan sera de plus en plus présent parmi nous. Et entre-temps, ce sont le corps de nos femmes qui... Ça se paye sur le corps de nos femmes. Elles sont violées, mutilées. On vide les territoires pour pouvoir exploiter ces choses. Et voilà, c'est cette mondialisation-là, je voulais parler. On est dedans. Et moi, ce que j'ai pu écrire dans le livre, c'est justement les gens qui se battent contre cette chose-là, en temps réel, dans la ville de Kinshasa même.
On passe au disque du jour. On parlait de tropicalisme tout à l'heure à propos du livre de Jean Bofan, et c'est du tropicalisme mais londonien, Zoé Spaz.
Londonien, disque assez étrange, assez spectaculaire, assez noir finalement, comme on les aime à Ping Pong. C'est le troisième album du groupe londonien East Tropical. Leur musique est à la fois pop, rock et déprimée, et elle a une espèce de charme assez indicible. On a vraiment du mal à le raconter. C'est leur troisième album, ils l'ont enregistré quasiment sans argent, et ils ont décidé de le faire sur les 5 continents, c'était très important pour eux, dans des studios donc en Asie, en Afrique, en Amérique du Nord. Et ça sent à la fois l'insomnie, le jet lag, la mélancolie de ne pas être chez soi, mais ça reste étrangement festif, à l'image de ce titre « Now Stop ».
Ping Pong, c'est sur France Culture.
Now Stop, issu du troisième album du groupe East Tropical. Il s'appelle Black Anything, quelque chose de noir, au noir quelque chose, à traduire en français comme vous le voudrez. Il est disponible un peu partout, par bout, sur internet. Il est sorti le 11 mars en disque physique. Et il sortira aussi en 5 vinyles, à raison de 2 titres par vinyle. Et quand vous récomposez tous les vinyles, eh bien, ça fait la terre entière.
Merci Zoé. On vous retrouve demain pour un nouveau disque du jour, payable en marque, hein, bien sûr. Et puis un nouveau journal de la culture.
Ping-pong.
Ah, vous avez un mot. c'est déjà fini, mais Jean Beaufan veut rajouter quelque chose in extremis.
Non mais je devrais y aller, je suis au Live Magazine. Donc avec des amis, Hénard...
Voilà, pour le public qui est à nos côtés, vous pouvez retrouver Jean Beaufan avec Mathias Hénard, Alice Zénitaire dans quelques poignées de secondes, voilà. Sur scène, dans Live Magazine. Il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de diffusion sur les ondes. Et si vous êtes loin, eh bien vous prenez un hélicoptère russe, vous prenez un Rafale, et plutôt qu'aller faire la guerre, eh bien vous venez au salon Livre Paris 2016 pour découvrir tout cela. Merci beaucoup à tous. Merci deux. À Justine Sana, vos chroniques de Brazzaville sont éditées chez L'Harmattan. Quant à vous, Nicolas Jean Beaufan, votre Congo Incorporated, le testament de Bismarck, votre roman primé, se déguste sur le stand d'Actes Sud et dans toutes les librairies.
Le ping-pong est un récit radiophonique qui s'écrit en équipe et qu'à l'équipe, à la rédaction Aïssat Wendoy, Hélène Delis et Selena Terret, à la réalisation et la programmation musicale Thomas Beau, à la prise de son ce soir Clément Daté, héroïque.
Mais quid de notre beau lendemain, Mathilde ?
Demain, de nouveau, nous déplaçons la table de ping-pong en direct de Livre Paris 2016. On parlera premier roman et attention, on aguiche le chaland, BD pornographique.